RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue à Saint-Lary-Soulan, au pied du Plat d'Adée, là où s'est achevée tout à l'heure la 14e étape du Tour de France. Première étape dans les Pyrénées, première étape avec arrivée au sommet et nouveau succès pour Tadej Pogacar. Le maillot jaune de ce Tour de France est imposé avec la manière aujourd'hui au Plat d'Adée, s'imposant devant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Les trois fantastiques sont bien là, oui, mais il y a un fantastique qui semble vraiment au-dessus de la mêlée, Tadej Pogacar, que l'on peut-être atteint au moral après ce qui s'est passé au Lyon en mercredi, a tapé du poing sur la table aujourd'hui. On va évidemment revenir sur tout ça avec toute l'équipe de l'After Tour. Cyril Guimard en tête, évidemment, il est là. Salut mon Cyril.
Oui, bonjour, bonsoir, plus exactement. Toujours en tête, j'espère le rester.
Tu restes le maillot jaune de l'équipe de l'After.
Oui, comme Pogacar, c'est en tête.
Ouais, mais c'est grâce à ta tactique peut-être que.
Oui, je pense.
Ouais, c'est ça. Oui. Jérôme Coppel.
Toute modestie, hein.
Ouais, Jérôme Coppel, est-ce que tu as la même tactique que le druide?
Moi, je suis dans le rondin du druide, moi. Je suis bien abrité.
Bien abrité également, Pierre-Yves Leroux.
Ouais, moi,
abrité dans le camion toute la journée.
Je préfère pas être dans cette situation. Je préfère me mettre à l'écart, s'il vous plaît. Je préfère. Et puis, de toute façon, on n'a pas du tout les mêmes stratégies.
On va en parler des stratégies. Les stratégies d'épicier ou les stratégies offensives. Notre ami Arnaud Souk est descendu de sa moto, il est descendu du
plat. J'ai pris mes petits chips dans la tête, moi aussi.
Ah, toi aussi, t'as pris des... Non, c'est pas vrai. Je plaisante, quand même. Oui, on va y revenir.
Par contre, j'ai pris quelques fumigènes. Ça, c'était une folie, ce plat d'année.
Il y avait un monde dans cette escalade, dans cette montée, cette ascension vers le plat d'année. Il y a eu du monde toute la journée, d'ailleurs.
Oui, dans le Tourmalet,
dans l'Ourcade dans 6 ans, c'était magique.
Là, c'est le vrai tour. Hein. Là, ouais. Ça rigole pas. Beaucoup de Basques, beaucoup d'Espagnols.
On n'est pas loin de l'Espagne et du Pays Basque. Il y a toujours fumigènes, il y a toujours du monde.
De l'Espagne ici, donc c'est normal, hein, les Espagnols ils sont venus en masse.
En masse donc pour assister à la victoire de la superstar Tadej Pogacar, meilleur coureur cycliste au monde, battu lors des deux tours précédents et qui aujourd'hui a peut-être marqué de son empreinte ce Tour de France et peut-être dessiné une grande partie de son succès dans 8 jours à l'arrivée à Nice. On revient évidemment tout de suite sur cette étape, c'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
Exactement, avec Vingegaard tout de suite dans sa roue, bien on en parlait. Il est à l'attaque, il a décidé d'être offensif, il ne veut pas jouer les épiciers.
La fusée la plus puissante du monde a décollé.
Derrière, tentative de Remco Evenepoel pour coller à la roue de Carlos Rodriguez. Et Remco Evenepoel qui lâche Carlos Rodriguez, qui va revenir sur Vingegaard, mais surtout Tadej Pogacar prend de l'avance. Il a maintenant une vingtaine de mètres d'avance et Adam Yates est en train peut-être de permettre à Tadej Pogacar de faire un creux dans ce Tour de France parce que Tadej Pogacar creuse. Il a bien une trentaine de mètres d'avance désormais. 25 secondes, semble-t-il, d'avance pour Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard. Ça commence à être un petit peu lourd, là.
Encore, ça fait beaucoup, là, non?
Plus que 250 mètres à parcourir, un dernier virage à droite et il pourra aller se diriger vers l'arrivée, lever les bras en maillot jaune et en vainqueur.
Le taulier est là, le taulier slovène, il s'appelle Tadej Pogacar. Effectivement, le taulier est là, Pogacar,
oui,
voilà,
bien,
ça va bien, Pogacar, hein, ça lui va pas mal aujourd'hui, donc qui s'impose dans cette étape. On va rappeler quand même le classement de l'étape et le classement général pour bien comprendre qu'aujourd'hui, il a quand même tapé du poing sur la table et sérieusement. Hein.
Oui, tout à fait, Tadej Pogacar qui s'impose avec 39 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Il y a eu les bonifications à l'arrivée, hein, 10 secondes pour Tadej Pogacar, 6 secondes pour Vingegaard. Evenepoel, lui, est troisième à 1 minute 10 avec 4 secondes de bonification. Carlos Rodriguez est à 1:19, ce qui nous donne au classement général bien une évolution. On rappelle que Primoz Roglic, le quatrième fantastique, n'est plus là. Tadej Pogacar est premier avec près de 2 minutes. Hein, 1 minute 57 désormais d'avance sur Jonas Vingegaard et 2 minutes 22 sur Remco Evenepoel.
Voilà, ça commence à faire beaucoup. Alors, on se demandait, après l'étape du Lyon, si Vingegaard était entré dans la tête de Poggi et si celui-ci n'était pas en train de commencer à douter. Eh ben, le Slovène, aujourd'hui, a répondu de la plus belle des manières. Qui veut s'exprimer là-dessus?
Oui, mais moi, ça, on en discutait hors antenne avec Cyril et Jérôme. Je pense quand même que ça nous montre aussi que la stratégie de Tadej Pogacar dans le Puy-Marie, elle n'était pas non plus complètement saugrenue non plus. Qu'il a peut-être connu un petit souci, qu'il a très certainement eu une fringale ce jour-là. Il me semble quand même qu'il est une petite pédale au-dessus Pardon, je vais y arriver, de Jonas Vingegaard depuis le début de ce Tour de France. C'est les chips, effectivement. On a quand même l'épisode du Galibier, où il prend l'avantage sur Vingegaard. L'épisode du chrono de Gévrey-Chambertin, où il prend l'avantage sur Vingegaard. Aujourd'hui, il prend encore l'avantage sur Vingegaard. Et tout ça, au final, ça fait quand même 2 minutes, quasiment. 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a quand même notre favori.
Oui, il était favori au départ. Mais c'est vrai que mercredi dernier, on a quand même douté, un peu comme lui. On s'est dit, et si Vingegaard était capable de le faire.
Mais
ce soir, il faut bien se rendre à l'évidence. Voilà.
Ce soir, c'est autre chose. Mais moi, je suis sûr que Vingegaard est rentré dans la tête de Pogacar. Et on l'a encore vu aujourd'hui, quand Pogacar attaque, il se retourne, tous les 100 mètres, il se retourne pour voir si Vingegaard rentre ou pas. Donc quand même, ça a cogité. Et au bout d'un moment, quand le trou s'est fait, voilà, là, c'était bon. Mais on sent quand même qu'il n'était pas ultra, ultra serein, Pogacar. Il n'était pas vraiment sûr de lâcher Vingegaard. Et je pense que Vingegaard, il est comme nous. Il n'y croyait pas au départ. Il y a cru à un moment donné. Et ce soir, il n'y croit plus beaucoup, à mon avis, Vingegaard.
Oui, on parlera tout à l'heure de Vingegaard, évidemment. Pogacar, donc, qui a peut-être douté, mais qui n'a pas finalement changé sa stratégie, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, contrairement à ce que Cyril demandait, à savoir...
Nos consultants.
La stratégie n'était pas la même.
Alors, la stratégie...
Bah oui. Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un à l'avant sur l'étape du Lioran? Non, il a envoyé personne. S'il avait eu quelqu'un, peut-être ça aurait changé la donne à 30 km de l'arrivée.
Le chat. C'était le chat noir, maintenant c'est le chat qui retombe sur
ses pattes. Cyril va me défendre, on est les deux seuls à connaître le vélo. Donc on l'a bien vu
que vous connaissiez le vélo.
Au Lioran, s'il attaque tout seul, c'était 15 km plus loin qu'il fallait le faire. Sinon, avec un coureur devant. Comme ils ont fait aujourd'hui. Et là, Cyril va le réexpliquer après, je ne vais pas lui voler sa phrase, mais d'avoir fait attaquer Adam Yates devant, ça a permis, dans un premier temps, parce que Pogacar, il fait quoi? Il attaque très fort, il crée tout de suite un trou sur Vingegaard, et Vingegaard, au train, comme il a fait au Lyon, il arrive
tout,
à revenir.
Hier, vous nous avez vendu le fait qu'il fallait rester dans la roue de Jonas Vingegaard.
C'était leur plan de départ, monsieur. Leur plan de départ, c'était ça.
Je suis désolé.
Mais
Pierre-Yves, c'est ce qu'il... Est-ce que tu as vu un moment dans la journée...
Oui.
Est-ce que tu as vu Vingegaard dans la roue de Pogacar? T'as vu Pogacar dans la roue de Vingegaard?
Oui, tout à fait.
Toute l'étape.
Ah non. Parce qu'à 5 km, j'ai vu Pogacar attaquer.
Mais attends, tu permets que je te parle de toute l'étape? Et que j'allais arriver aux 5 km.
Ah bah moi, pour moi, toute l'étape, c'est jusqu'au sprint final.
Non.
Et c'était ça, la stratégie.
Rappelle-toi les images que nous avons vues. Et d'ailleurs, on les a soulignées pendant le direct. Un moment, Yates et Pogacar discutent tous les deux.
Tout à fait.
Ils sont dans la roue de qui?
Oui.
De Vingegaard.
Oui, d'accord.
Et là, la caméra s'en va. Et d'un seul coup, elle revient. Et tu as Yates qui attaque.
Oui.
Et là, bien sûr, personne ne roule. Et là, qui est-ce qui est obligé de rouler? Jorgensen, l'équipier de Pogacar.
Oui,
de Vingegaard.
De Vingegaard. Et là, d'un seul coup, les rôles sont inversés. Il aurait très bien pu faire, s'il avait fait la même stratégie qu'à Lioran, dire à Yates, bah, tu te mets à la barre,
voilà.
Et tu vas faire exploser tout le monde.
Pas du tout la même stratégie.
Là, ils ont fait complètement, ils ont inversé. Yates a attaqué. Quand le trou était fait...
Et le plan de départ, c'était même pas ça.
S'ils étaient restés dans votre stratégie d'attente, ils n'auraient
mais
rien fait.
Mais c'est pas ce qu'on...
Mais si, c'est ça non, que vous nous avez vendu attend, hier. Mais...
Non, on a dit qu'il faut attendre, et si à la fin il peut y aller, il faut y aller.
Et quand il est
sur les murs... À la fin, il restait 5 km.
Mais c'est la fin, 5
mais
km.
Mais non, la fin, c'est le sprint.
C'est la stratégie, c'était le sprint.
Pierre-Yves, il fait des sorties de 5 km chez lui. Donc c'est le début, quand il se monte sur son vélo, il a 5 km, il commence à sortir.
On avait un chat noir, on a deux chats désormais.
En plus, en 25 minutes, tu les fais les 5 km. Alors, écoutons, pour vous mettre d'accord, Mauro Gianetti, le manager de la formation... Non, mais vous... L'équipe des épiciers contre
la team Panache.
Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'on a fait quelques courses de vélo tous les deux.
Oui, quelques erreurs aussi.
Oui, oui. Alors, écoutons Mauro Gianetti, il va nous départager. Est-ce que c'était quelle était la stratégie aujourd'hui de la formation UAE? On écoute le manager de Tadej Pogacar.
Il y avait deux plans. Donc un plan, c'était voir à 4 km, 4,5 de l'arrivée, la situation, si ça se présente bien, qu'il y avait beaucoup de fatigue dans les jambes, essayer d'aller faire un gap assez important. Et sinon, si jamais la situation elle était pas propice pour une attaque à 4 km, 4,5, faire justement les derniers 500 mètres pour quelques secondes, quoi. Donc c'est toujours bon.
Voilà, Mauro Gianetti qui nous dit qu'il y avait deux plans dans les...
Demain matin, il y en aura trois.
Ça, c'est de la flûte. Hein. Ça, c'est de la flûte. Parce qu'Adam Yates, quand ils l'ont interviewé à l'arrivée, il a dit, quand j'ai discuté avec Pogacar, il m'a dit, il faut que tu attaques. Il a dit, mais de quoi tu parles ? Donc, soit Yates n'était pas dans le bus au moment où ils ont fait les deux stratégies, soit il y a un truc qui ne joue pas. Parce que Yates était complètement surpris. Et il a dit, avec Pogacar, on a un plan, mais avec Pogacar, il n'y a jamais de plan, en fait. Ça change tout le temps. Donc, voilà.
Donc, il y avait deux plans. Il y avait après, pas il y deux avait plans. Un plan. Et après, il n'y avait pas du tout de plan, en fait.
Il y avait un plan.
Non, c'était... Soyons beaucoup plus précis. Il y a...
Écoute, Jérôme.
Il y a Pogacar qui dit, on avait un plan, c'était uniquement le sprint. Oui. Et il le dit, on l'entend.
On l'écoutera.
Tout à fait.
Donc voilà. Et puis il y a ce que dit Yates. Puis d'un seul coup, il y a le boss qui arrive en disant bah, finalement j'avais tout prévu. Sauf que les coureurs n'étaient pas au courant de tout ce qu'il avait prévu. La seule chose qui était prévue, c'est qu'ils avaient peur. Et ça, on l'a vu. La peur de Pogacar une fois qu'il est sorti. Là, c'est
que
très bien.
Il
n'arrête pas de se retourner, mais il se retourne pas pour voir. Il se retourne parce qu'il a peur. Parce qu'il a été traumatisé par ce qui s'est passé au Durand.
Mais ce que je ne comprends pas dans votre stratégie initiale, Jérôme, c'est que vous dites, il n'a pas besoin d'attaquer, il n'a pas besoin à gagner du temps. Or là, finalement, il a pris des risques. Mais donc, oui, il n'était pas dans la stratégie que vous évoquiez
hier. Je crois que tu ne nous écoutes pas.
Ou alors vous expliquez mal.
Après il y a ce qu'on a...
Vraisemblablement...
Il faut peut-être qu'on t'explique longtemps, apparemment. Tu fais peut-être partie de cette case-là.
Moi, je pense que vous n'êtes vraiment pas convaincant.
Sur tous les terrains, que ce soit les terrains de foot, de rugby, de vélo, il y a ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. C'est ce que disait Pierre Villepreux. C'est-à-dire que tu t'adaptes aux circonstances, tu vois évidemment...
C'est ce qu'on appelle l'instinct.
Mais surtout...
Voilà.
Oui, mais surtout, c'est un coureur.
On peut l'appeler comme on veut.
C'est un coureur offensif. Et ça, on le. Mais, il fera des erreurs, mais c'est un coureur offensif. Mais, c'est un coureur de spectacle. Mais c'est pas un coureur.
On n'a jamais dit le contraire. Et on est complètement d'accord
avec
ça.
On est complètement d'accord.
Et ben, finalement, voilà, on est d'accord.
Faut pas qu'il enlève ça. Mais là, la différence, c'est qu'il y avait Yates au milieu.
Oh, Yates, il n'a pas servi.
Ah, non, mais Cyril,
tu rigoles. S'il n'y a pas Yates pour maintenir l'écart et lui permettre de souffler une minute, on ne sait pas ce que ça donne à l'arrivée.
Pendant trois jours, tu nous as dit, ouais, Pogacar court n'importe comment, il a perdu deux Tours de France à cause de son instinct.
Et ben, je confirme.
Et puis là, ça devient un génie.
Et là, maintenant, c'est un génie, alors, ce soir.
Non, je n'ai pas dit que j'étais un... Non.
Ah, que t'étais un génie, non.
Attendez, vous voulez vraiment
nous faire... Je te laisse pas faire, Cyril, je suis avec toi.
Tu donnes Guimard, pas un coup de pédale.
Tim Guimard.
Il a quand même bien perdu.
Ouais, à la Van Gils, on lui envoie
un coup d'épaule
dans les balustrades.
Non, mais il a mal couru il y a deux ans, il a mal couru l'an dernier, on le sait, on l'a dit, et il a perdu deux Tours de France. Ça veut pas dire que... Aujourd'hui, il a mal couru, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il a bien couru qu'on va finir par dire « Ah, c'est un génie de... » Non, mais attendez, attendons qu'il refasse et demain, et une fois dans les Alpes, et il aura 6 ou 7 minutes d'avance. Mais il n'aura même pas besoin.
En plus, quand vous êtes dans le peloton... Quand vous êtes
oui, mais après, c'est fini. Quand l'autre, il va complètement exploser... Ouais. Et il peut faire le show qu'il veut.
Parce qu'on a bien compris que c'était pas la stratégie de départ, contrairement à ce que tu dis, Pierre-Yves, d'attaquer à 5 km. Mais quand vous êtes dans le peloton, vous voyez vos adversaires, vous voyez le coup de pédale, vous voyez leur respiration, vous voyez leur placement, vous voyez plein de trucs que nous, on peut pas voir à travers nos écrans. Et peut-être que lui, il a senti que Vingegaard, il était pas avec le même coup de pédale ou la même respiration qu'il y avait au Liorant. Et peut-être que même lui se sentait mieux aussi que ce jour-là. Donc c'est pour ça que le côté instinctif, d'un coup, il revient. Et faut surtout pas enlever un coureur comme ça. Son côté instinctif. Mais au Liorant, c'était pas instinctif, c'était la stratégie, il fallait attaquer ici, c'était une erreur dès le matin. Quand il a suivi le plan, ça a pas marché. Aujourd'hui, il a pas suivi le plan, ça a marché.
Arnaud, toi qui étais au contact des coureurs, même si évidemment, c'est pas toujours facile de les voir, est-ce que tu avais noté, toi, des...
Non, honnêtement, non, j'ai pas noté quoi que ce soit de significatif qui aurait pu laisser transparaître le fait que Vingegaard soit moins bien aujourd'hui. Après, encore une fois, moi j'y reviens, je pense que Pogacar c'est un vrai coureur d'instinct, qu'il a eu l'instinct l'autre jour aussi d'attaquer, peut-être un petit peu trop tôt, puisque manifestement, Jérôme nous dit qu'il aurait dû attaquer dans la montée suivante. Et je pense que ça, tu pourras jamais lui enlever ça. Et c'est ce qui fait qu'on adore le voir gagner les Strade Bianche avec je sais pas combien d'avance. On adore le voir attaquer dans le Coirmont sur le Tour des Flandres pour aller gagner. Pareil sur Liège-Bastogne-Liège. Bref, il est comme ça et je pense qu'on pourra pas lui enlever. Et vous pouvez mettre toutes les stratégies du monde, à mon avis, autour de Pogacar. Il ne pourra jamais s'empêcher d'aller gagner des secondes.
C'est un coureur complet, on l'a compris, qui est capable de gagner sur tous les terrains, mais c'est plus un coureur de classique, de course d'un jour ou d'un coureur de grand tour pour vous.
Écoute, le palmarès, il a tout gagné, là, il sait tout faire.
Il sait tout.
Ouais. Il sait tout faire. Il va peut-être réussir à gagner.
Sauf
tous
que
les
sur les grandes classiques, il n'a pas souvent perdu, quoi.
Ben, il n'a pas souvent perdu, mais il est capable.
Mais il n'a pas souvent pris le départ.
On a parlé pendant l'antenne de Mathieu Van Der Poel qui a fait un printemps exceptionnel. Mais Mathieu Van Der Poel, ça va peut-être être plus dur pour lui de gagner tous les monuments, alors que Pogacar a peut-être plus de chances de tous les gagner, même si Paris-Roubaix, ça va être compliqué. Mais en tout cas, sur le papier, il est capable de les gagner. Je l'ai dit, hein, pour moi, c'est de loin le meilleur coureur du monde parce que c'est le plus complet, justement. Vingegaard, il se concentre principalement sur les courses par étapes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il fait moins rêver les gens et qu'il nous fait moins rêver. Et il est moins spectaculaire aussi. Mais c'est difficile de savoir si Pogacar est un coureur de classique ou de grand tour. Je veux dire, il a quasi tout gagné déjà.
En attendant, à 25 ans, il va peut-être gagner un troisième Tour de France. Ça lui laisse largement le temps de rattraper les Hino et compagnie. Il ne va pas les doubler.
Un doublé qui n'a pas été fait.
Attention. Moi, à partir d'aujourd'hui, je donne plus de conseils de stratégie à Pogacar. Non, je veux préserver Bernard Hinault quand même. Et Jacques Anquetil.
Attention, parce que là, tu enterres peut-être un peu vite un garçon qui a battu Pogacar à deux reprises et qui, cette année, n'est pas, on en parlera tout à l'heure, n'est pas évidemment dans sa condition optimum, mais qui reviendra l'année prochaine.
Ça nous promet un match.
Le match entre les deux risque peut-être de prolonger plusieurs années.
C'est un duel épique quand même qu'on est en train de vivre, quoi qu'il en soit, parce qu'à chaque fois, ça se joue à coups de seconde. On a suffisamment, pendant des années, été malheureux de voir une équipe ultra dominatrice et voilà. Un scénario couru d'avance, que ça soit à l'époque des Ineos, que ça soit un petit peu plus tôt avec des coureurs, je sais plus, comme par exemple Contador quand il gagnait, bon, ça souffrait quand même pas trop de contestation. Là, on a quand même envie d'y croire, en tout cas jusqu'au plus loin possible, quoi. Et ça, c'est quand même très cool parce que ça nous met, je trouve, l'eau à la bouche tous les jours. Et là, on peut pas exclure. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que Pogacar va gagner le Tour de France. Moi, je suis toujours resté sur Pogacar. Mais je ne peux pas catégoriquement exclure que demain, il ne va pas avoir une défaillance dans le plateau de Bay.
On ne peut pas savoir. Ouais, mais c'est sûr que si on s'enflamme autant sur les derniers Tours de France, c'est parce qu'on a deux coureurs qui font le spectacle et qui se rendent coup pour coup. Voilà, il y a deux Tours de France chez Pogacar, il y en a deux chez Vingegaard. Et puis, on a toujours des méga duels dans la montagne quand même. Parce que Vingegaard, on a beau dire ce qu'on veut, mais l'an passé, il a quand même attaqué un paquet de fois. Ouais. Il ne l'a pas gagné en épicier, comme t'aimes bien dire, monsieur Leroux.
Donc, pas plus que l'année d'avant, d'ailleurs, bah non, parce que quand il gagne au Granon, c'était tout sauf de l'épicerie.
Donc, et si on a un aussi beau spectacle, c'est qu'on a deux grands champions.
Mais je vais revenir à ce que vient de dire Arnaud. Est-ce qu'on a déjà eu, et ça, tu vas pouvoir nous faire les statistiques, monsieur statistique, Pierre-Yves, est-ce qu'on a déjà eu sur le même Tour de France, des Tours de France où il y a des coureurs qui avaient gagné au minimum deux tours, et qui étaient adversaires.
Qui étaient ensemble.
Oui.
Bah, ça remonte aux années 30, je crois, c'est ça qu'on disait hier.
Ah oui, je ne sais pas, je posais
depuis
la
1938,
question.
On n'avait pas eu deux coureurs qui avaient gagné plusieurs Tours de France, qui se retrouvaient premier et deuxième d'une étape.
C'est ça.
Mais,
c'est exceptionnel.
2009, Contador à Armstrong, Contador a gagné combien de tours à ce moment-là?
Contador, en 2009, il a gagné deux tours. Enfin, c'est son deuxième en 2009 qu'il gagne.
Ouais, donc, non.
Non, mais effectivement, oui, c'est assez unique ce qu'on est en train de vivre. Il faut quand même prendre conscience, en tout cas dans l'histoire moderne, je ne sais pas, faudrait regarder dans les... Moi, personnellement, je pense qu'on est sur du niveau de Merckx-Ocaña à l'époque, en fait. Si on considère qu'Ocaña
aurait... Sauf que le duel n'a pas duré si longtemps entre Merckx-Ocaña.
Parce que peut-être qu'Ocaña aurait pu, en 71, et on pourra en parler demain,
il avait 7 minutes
d'avance. Voilà. Et qu'est-ce qui se serait passé si, dans le duel, dans la légende entre ces deux-là, si jamais... Bon, enfin, on va pas refaire des si, mais je pense qu'on est dans un duel de ce niveau-là, pour moi.
Mais vous savez que là, vous savez ce qu'on est en train de vivre, là ? La finale de Roland-Garros ? Ils sont à deux partout. Cinquième set.
Il peut y en avoir encore beaucoup des sets là. Là, il va y avoir des super
plays. Là, je pense que Pogacar a pris le service de son adversaire ce soir.
Il faut qu'il break maintenant.
Il vient de breaker justement.
Ils ont que 27 et 25 ans. Hein. Donc il y a encore quelques années. Hein. Puis les deux sont pas vieux.
Ils vont nous pousser à la retraite ces deux-là. On va écouter tout de suite Tadej Pogacar, donc vainqueur d'étape et maillot jaune renforcé ce soir. Il est en tête avec désormais 1 minute 57 d'avance. C'est ça.
Exactement.
Sur Jonas Vingegaard. La réaction donc du maillot jaune de ce Tour de France.
C'était instinctif, on a essayé d'aller pour l'étape, mais encore plus pour le sprint. C'était ce genre de situation. Adam, il a attaqué et j'ai essayé de maintenir l'écart. Et je vois que si je rejoins Adam avec l'écart, il peut me tirer un peu et c'était vraiment parfait. Je dois dire un grand merci à toute l'équipe aujourd'hui. Ils ont été incroyables et cette victoire est pour tous mes coéquipiers.
Oui, parce que cette équipe UAE, elle est quand même redoutable. On était un peu inquiet après l'abandon hier d'Ayuso, victime du Covid. Aujourd'hui, bah, ils ont montré que même à 7, ils étaient capables de tout gagner. On a vu Polite, le travail de Polite dans la plaine, jusqu'au sommet du Tourmalet. On a vu Adam Yates s'attaquer.
Hein.
Ouais, il est resté quand même longtemps, tu vois.
On a vu Marc Soler en faire un coup d'accélérateur incroyable, effectivement. Timo Hellens aussi, Pavel Sivakov. Oui, là, c'est vraiment un travail d'équipe.
Juste un petit mot, Cyril. La tactique avec donc Yates qui part devant, tu le disais tout à l'heure dans le direct, lorsque Pogacar revient, ça lui permet de reprendre ses forces, de
remétaboliser.
Oui, parce que quand tu attaques comme il le fait, et c'est une qualité extraordinaire, sauf qu'elle consomme, elle consomme beaucoup d'énergie, et entre autres, cette énergie se transforme en lactate. Et ce lactate, ben, il fait très mal aux jambes, mais il faut un certain temps pour retrouver, on va dire, ce qu'on appelle le deuxième souffle. Donc il revient sur Yates, il se met dans la roue de Yates. Yates roule d'ailleurs moins vite que lui, et donc ce qui va lui permettre pendant un certain temps, on monte quand même sur des vitesses à plus de 20 km/h, 20-25, donc il y a de l'aspiration également. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il refait les niveaux. Pogacar était revenu, et quand il a renclenché donc derrière, là, l'écart s'est creusé directement.
Jérôme, tu as des infos concernant la montée du plat d'Adée?
Ouais,
avec un petit record, une nouvelle fois?
Ils auraient battu de nouveau un record, hein, 2 minutes sur le meilleur temps qui était détenu par Rominger, je crois, à l'époque. Ah, donc ça a monté très... Oui, ça remonte à loin. Hein, ça fait... Mais ce n'est pas les seuls, hein, il n'y a pas que Pogacar.
Et il y avait 300 mètres de plus.
Oui, il y a beaucoup de... Faudrait que je regarde.
Ce n'est pas tout à fait la même montée quand même, que d'habitude. Hein, il y avait une petite descente avant le dernier kilomètre. Oui, mais par contre, il y a une partie descendante qu'il n'y avait pas à l'époque.
Ouais,
la montée a été modifiée, le dernier kilomètre a été substantiellement modifié.
Oui, et il y avait quand même vent plutôt favorable dans toute la montée.
Et en plus, alors ça, le vent, on a la chance de voir là, le plat d'Adès où on est, c'est une plaie. Hein. Le vent dans la montée du... Enfin, tu l'as sans doute fait, Jérôme, toi, c'est une plaie. Quand tu prends le vent de face, t'es à flanc de falaise, c'est noir.
Là, il était plutôt favorable.
Très bien, 19h23, vous êtes sur RMC, c'est l'After Tour jusqu'à 20h avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel, Arnaud Souk et Pierre-Yves Leroux. Dans un instant, on va s'intéresser au grand battu du jour, Jonas Vingegaard. Il a fait illusion pendant 2 semaines, il l'a montré, il s'est battu. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à le faire? Est-ce qu'il va pouvoir retrouver un peu d'énergie? Ou est-ce que le Tour est définitivement envolé pour lui? La réponse de toute l'équipe dans quelques instants, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France, une route qui s'élève aujourd'hui. Nous sommes dans les Pyrénées, première arrivée en altitude. Ce sera cet après-midi au-dessus de Saint-Lary-Soulan, au plat d'Adée.
Il y en a un qui est particulièrement intéressé, c'est Brian Cocard, tout comme Arnaud Delis. Est-ce que ça va sprinter avec Arnaud Delis? C'est parti pour Brian Cocard sur la droite de la route. Brian Cocard qui a la possibilité tout simplement de repasser 3e au classement du maillot vert aujourd'hui s'il va chercher les points. Il est en avance sur Arnaud Delis, attention. Est-ce qu'il va réussir? Oui.
Je vous signale l'abandon d'Alberto Bettiol. Ça veut dire que le champion italien, peut-être lui aussi, souffre d'un petit virus. On n'avait pas eu d'informations à ce niveau-là. Maintenant, on est à 22 abandons sur ce Tour de France.
Et ouais, c'est bien joué de la part de Lascano. Je ne suis pas sûr que David Gaudu réussisse devant.
Et bien non,
David Gaudu, attention, prend l'intérieur, c'est très dangereux. Ce qu'a fait David Gaudu hier, Lascano, là, qui s'est vraiment fait couper la route. Et des résultats, eh bien, David Gaudu va aller chercher les points. On est limite, hein. Est-ce qu'il va pas y avoir une faute sur ce coup-là? Eh oui, la attaque de Tadej Pogacar, exactement, avec Vingegaard tout de suite dans sa roue. Bien, on en parlait, il est à l'attaque, il a décidé d'être offensif, il ne veut pas jouer les épiciers. Derrière, tentative de Remco Evenepoel pour coller à la roue de Carlos Rodriguez. Et Remco Evenepoel qui lâche Carlos Rodriguez, qui va revenir sur Vingegaard, mais surtout Tadej Pogacar prend de l'avance. Il a maintenant une vingtaine de mètres d'avance, il va peut-être revenir sur la rampe de lancement.
RMC, la flamme rouge.
Le dernier virage, tourné à droite, levez les bras. Poggi is the winner aujourd'hui, le vainqueur, c'est le maillot jaune. Il peut serrer les bras, il est le meilleur. Il a été à l'offensive, il a l'upanache, il ne veut pas jouer dans l'attente et il met un gros coup à Jonas Vingegaard, un uppercut.
Oui, il a du mal à...
RMC, l'after tour.
Christophe Cessieux.
19h26 sur RMC, l'After Tour en direct de Saint-Lary-Soulan ce soir, au terme de la 14e étape du Tour de France, remportée donc par Tadej Pogacar. C'est son deuxième succès sur les routes de ce Tour et son 13e dans sa carrière, c'est ça?
Oui, sur les routes du Tour, et on le disait tout à l'heure, à trois seulement étapes, victoires d'étape de Jacques Anquetil, c'est quand même... un sommet. Ouais. Il a 28 de Bernard Hinault. 28 pour Bernard Hinault. Il reste encore un peu de temps.
Ouais, et pour Cavendish et.
Oui.
Hein, encore plus compliqué. Ouais. Hein, pour. Mais bon, sait-on jamais.
Il est un record. Vous savez, chasse un autre record intéressant, c'est celui du plus grand nombre de jours passés dans le maillot de leader sur une saison, qui est détenu par Eddy Merckx en 1970, qui avait passé 37 jours en jaune en tout, 23 sur le Tour et 14 sur le Giro. Bah, Pogacar, il en a passé 20 cette année sur le Giro. Il en a passé 12 à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui.
Donc il a
sur
32.
Le Tour de France, il a 32, donc dans 5 jours en jaune, il va rentrer encore une fois dans l'histoire avec un nouveau record.
Et puis pourquoi pas aller chercher le maillot rouge?
Bah alors pourquoi
le
pas
maillot rouge de la Vuelta enfin, derrière.
Un titre olympique, parce que là, au milieu.
Là, on parlait beaucoup du doublé, là on s'en approche, mais le triplé, ce serait évidemment.
Enfin, s'il était vraiment le meilleur coureur au monde, il gagnerait le championnat du monde aussi.
Il en a pas. Fait des médailles. Il a fait des médailles, que ce soit au chrono ou à la course en ligne.
Ah, c'est pour ça que c'est peut-être un coureur de grand tour plus que de.
Et vous parlez de titre olympique, mais à Tokyo, sur le circuit du Mont Fuji, il avait terminé 3e. Il avait failli passer sur la ligne Wout van Aert au sprint.
Et il sera là à Paris pour.
Il sera là à Paris.
Surveiller quand même.
Avec une légère bosselette à 10 km de l'arrivée dans la montée de Montmartre. Rue Le Pic, ça va être sympa sur les pavés.
Il sera pas en jaune.
Non, cette fois, il sera pas en jaune.
On aura du mal à le reconnaître.
Il sera en vert,
le maillot de la Slovénie. Le grand battu du jour, même s'il reprend une place au classement général, c'est donc Jonas Vingegaard, largement battu par Poggi. On a l'impression aujourd'hui, Cyril, que la réalité a rattrapé Vingegaard après son accident du mois d'avril. Il a fait illusion pendant 15 jours et il s'est sans doute surpris lui-même. Mais là, aujourd'hui, même s'il avait réussi dans un premier temps à recoller à 6-7 secondes de Pogacar, il a ensuite craqué dans le final, dans les derniers kilomètres de l'étape.
Oui, on avait remarqué à quelques reprises que à certains moments, il manquait un petit peu de résistance sur la durée des forts max. Là aujourd'hui, ça s'est concrétisé de la façon dont on a pu le vivre tout à l'heure, mais aussi parce que c'est la première fois où on a des vrais cols qui durent. Car jusqu'à maintenant, que ce soit à Lioran ou que ce soit la montée du Galibier, c'était qu'un seul col avec une descente. Le reste, il n'y avait pas grand-chose. Là, on montait déjà le Tourmalet. Même s'il ne s'est pas monté très très vite, les kilomètres passent, les réservoirs se vident. On refait un deuxième col derrière, puis un troisième. Et là, dans le troisième, eh bien, il a marqué le pas. Et quelque part, c'est logique. On a peut-être... mais ça, bon, on aura les réponses, dans les jours qui viennent. La configuration du Tour peut-être l'avantageait sur ce plan-là, dans la mesure...
Alors qu'on disait le contraire jusqu'à aujourd'hui, quand même. On disait, oui, attention, la montagne, les cols qui s'enchaînent, ça va peut-être être plus à son avantage, plus son terrain que celui de Pogacar. Oui, et là, on dit le contraire ce soir.
Oui, mais... Il y a un moment, tout le monde espère quelque chose et tout le monde raconte quelque chose. Et chacun y va.
On n'a pas dit ça, là, ces jours de...
On a dit que Vingegaard serait meilleur en troisième semaine.
Mais
même.
C'est bien ce que je dis. Moi, j'ai toujours mis une réserve en disant il n'a pas le bloc de travail.
C'est incroyable.
Rappelez-vous ce que j'ai dit. Il n'a pas le bloc de travail nécessaire compte tenu de la reprise et que, logiquement, il devrait...
Ça, c'est vrai que tu l'avais dit.
On
pensait, après les premiers jours de course, on se posait la question de savoir s'il allait progresser ou régresser.
Je pense pas qu'il régresse, par contre. Je pense pas qu'il régresse.
Non, il régresse pas du tout.
Je pense que Pogacar, en revanche, ça nous confirme.
Il est deuxième.
Ça nous confirme aussi manifestement ce que nous disait son staff au soir de l'étape, justement, donc qu'il perd au Lioran face à Jonas Vingegaard. Pogacar s'est énormément entraîné ce printemps, avant même le Giro, pour justement ces étapes typiques où il y a des enchaînements de très très longues ascensions. Et aujourd'hui, je pense que ça a été bénéfique. Mais moi, je vois pas Vingegaard non plus aux abois. Il a pas perdu 2 minutes aujourd'hui. Il a perdu 37 secondes sur 5 bornes. C'est pas non plus.
Si,
non, mais c'est pas monumental, Cyril. Je veux dire, l'an passé, quand tu voyais les défaillances de Pogacar, c'était, bon alors, 7 minutes ouais. dans...
Attention, parce que ça peut...
venir, hein. On n'est qu'à la première étape.
Voilà, oui.
C'est ce que...
Et moi, je dis que quand vous n'avez pas votre bloc de travail, et là, tu viens de dire que Pogacar, justement, il a fait des blocs de travail pour améliorer éventuellement certaines carences.
Ce qu'il n'avait pas pu faire l'année dernière à cause de sa fracture,
là,
au poignet.
Là, l'autre, il n'a pas son bloc de travail. Enfin, vous vous rendez compte que, et ça, je l'ai également dit depuis le départ, quand on arrive en début de saison, il faut 3 mois pour arriver à un bon niveau. Mais un niveau qui vous permet, limite, d'aller gagner Paris-Nice, etc. Mais l'entraînement, il est recommencé depuis novembre. Fin novembre, début décembre. Et avec les charges de travail et les progressions et le contrôle qui est fait. Lui, il a à peine 2 mois et demi, en ayant été arrêté 15 jours, moi, je me suis toujours dit... Bon. Et puis, il y a un moment, même moi, je doute. Je me dis, mais attends...
quand on le voit gagner au Lyon, c'est sûr qu'on s'est mis tous à douter.
Coup,
hein.
Mais la logique veut qu'il va régresser progressivement. Et ça va être d'autant plus évident que quand il commence à régresser, c'est le mental qu'on prend un coup. Et donc, sa capacité à accepter la souffrance. Donc, il est plutôt dans une situation où il va peut-être accepter la domination.
C'est ce qui s'était passé l'année dernière avec Poggi, battu dans le contre-la-montre. Le lendemain, il explose dans le col de la Lose. Parce que le mental...
Enfin, c'est dans le contre-la-montre qu'il a explosé. Et le lendemain, ça s'est concrétisé.
Ouais. Ah ouais, c'est surtout le lendemain qu'il a explosé
dans le
col de la Lose.
Dans le chrono, je pense que c'est les jambes qui explosent et le lendemain, c'est la tête qui pète. Ouais. Pour
mais ça, c'était une vraie explosion. C'est ça que je disais que les 30, je ne sais plus combien, 7 ou 9 secondes
ouais,
aujourd'hui...
C'est la première étape qui arrive au sommet.
Il avait limité aussi plusieurs fois, une fois il avait même gagné.
Bien sûr. La semaine prochaine, c'est là que je...
On aura déjà une autre idée demain, que ce soit son mental et son physique aussi. L'étape, est, on va en parler après, mais elle est un peu différente. Là, vraiment, les 3 cols étaient sur la fin. Vous montiez, vous descendiez, vous remontiez direct. Demain, il y aura plus de vallées entre aussi. On va voir si ça change quelque chose. L'étape a plus de dénivelé, elle est beaucoup plus longue. On va voir là, on pourra voir la résistance.
Attends,
de
Jérôme, attends, tu vas pouvoir présenter l'étape. Oh. On sait que c'est ton moment, mais il veut vraiment y arriver tout de suite.
On écoute la réaction.
Il est pressé.
Ah, c'est incroyable.
On va écouter la réaction tout de suite de Jonas Vingegaard, donc deuxième de cette étape. Et qui gagne une place au classement général, oui, parce qu'il est passé devant Evenepoel. Alors, comment juge-t-il son étape du jour ? On l'écoute.
Je veux dire que c'est un peu comme si je suis à la fois heureux et un peu triste parce que j'ai fait une bonne performance aujourd'hui, donc je ne pense pas que je puisse être déçu de cela, mais bien sûr c'est décevant de perdre 40 secondes. Je veux dire que nous devons juste prendre les bonnes choses de cette course car j'ai fait une très bonne performance et demain il y a un autre jour et peut-être un jour qui me convient mieux.
Voilà, Jonas Vingegaard, ouais, c'est ça, il est partagé un peu entre la satisfaction de terminer deuxième de l'étape.
Mais il faudrait pas oublier d'un coup,
il a besoin de se rassurer.
Il faudrait quand même pas oublier d'un coup que Jonas Vingegaard, il y a 3 mois, il est passé, il a frôlé la mort.
Non,
mais là j'ai l'impression qu'on l'éclipse complètement. Enfin, je veux dire, la performance
pas
aujourd'hui.
Pas du tout, je viens de t'expliquer qu'il a que 2 mois et demi d'entraînement.
Oui, mais enfin, 2 mois et demi d'entraînement, plus il y a 3 mois, une blessure gravissime. N'oublions pas quand même qu'il ne perd que 39 secondes. On regardait tout à l'heure les records de la montée. Bon, il est quand même dans les bons chronos sur cette montée. Il faudrait quand même pas occulter ça. Enfin, c'est en ça que je. Et puis la journée, elle est pas si mauvaise que ça non plus dans la mesure où il passe devant Remco Evenepoel au classement. Donc s'il arrive quand même à être devant,
ça c'est secondaire.
Non, mais c'est secondaire. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire aussi quelque chose. Il est pas aux abois. C'est ça que je veux dire.
C'est la première fois que dans ce contexte-là, Pogacar prend autant de temps à Vingegaard. Il avait creusé 39 secondes là aujourd'hui. Donc il avait gagné 32 secondes à Tignes en 2021, 24 secondes à Cotterêts-Cambasque en 2023, et les 11 autres fois, Vingegaard avait fini à moins de 8 secondes. À l'inverse, les 2 fois où Vingegaard a fini devant Pogacar, lors d'une arrivée au sommet, il y avait eu 2,51 au col du Granon et 1,04 à Otakam, donc c'est vraiment un écart important qui est fait par Pogacar dans ces conditions aujourd'hui.
Terminé deuxième du Tour de France, ce serait une victoire ou une défaite pour Vingegaard?
Pour moi, c'est clairement une victoire. D'où il revient, gagner une étape, faire le podium du Tour, c'est plus qu'une victoire, c'est inespéré, je pense. Et bien sûr, et moi j'étais le premier à croire, à penser qu'il pouvait, et on s'est pas fini, mais qu'il pouvait titiller Pogacar. Autant j'y croyais pas avant le départ en Italie, et au fur et à mesure des premières étapes, je me suis mis à y croire. Pour moi, c'est une gigantesque victoire. Vous rendez compte, Cyril l'a dit, 2 mois et demi d'entraînement, Arnaud a dit aussi, il a frôlé la mort. Vous revenez sur le Tour de France, vous êtes capable de gagner une étape pour le moment, et puis puis vous allez peut-être faire podium à Paris. Je crois que ça sera peut-être sa plus belle victoire au-delà des deux tours qu'il a déjà remportés, parce qu'il revient de très très loin quand même, Jonas Vingegaard, et on l'a senti le soir où il a gagné son étape au Lioran, il a quand même fondu en larmes, et on a bien vu qu'il revenait de très loin, même mentalement. Donc pour moi, c'est une énorme victoire s'il arrive à rester sur le podium.
Très bien. Un mot quand même des équipes respectives de Pogacar et de Vingegaard. On a vu que l'équipe UAE était surpuissante, même sans Ayuso, à la différence de la Visma, hein, qui cette année n'est que l'ombre de ce qu'elle était l'année dernière. Là aussi, il y a des raisons et des explications objectives, à savoir les chutes de Van Aert, les abandons, enfin les non-participations de plusieurs coureurs qui ont été victimes de chutes dans les semaines qui ont précédé le Tour de France. Mais ça n'a rien à voir avec l'équipe de l'année dernière.
Ah bah non, c'est le jour et la nuit. Les deux dernières années, c'était Visma Liseberg qui avait une équipe ultra forte, et puis on avait assez pointé du doigt la faiblesse de l'équipe de Pogacar, l'équipe UAE, et là la balance s'est complètement inversée, tu l'as dit, pour X raisons, mais il y a quand même des coureurs qui sont pas encore à leur niveau. Je pense à un Kelderman aujourd'hui, on l'a pas vu en fait, il a pété avant que la grande bagarre
avant
se mette
de rouler,
en route.
Oui.
Jorgensen a fait un super boulot aujourd'hui, par contre,
mais limité,
et puis il est tout seul en face. Vous avez Soler, Sivakov qui roule, après vous avez Almeida qui met un gros tempo, Yates qui pète, puis Almeida il met un tempo, mais il fait quand même 12e de l'étape, il prend qu'une minute 30, donc derrière il n'explose pas encore, ça veut dire que quand Yates attaque, il en a encore sous le pied Almeida.
Alors que
donc l'équipe, ça n'a rien à voir là.
Dès le bas du Tourmalet, on voit Van Aert passer à la fenêtre, on voit Christophe Laporte passer à la fenêtre, ce sont des garçons qu'on voyait longtemps dans l'école avant, même si ce ne sont pas leurs spécialités, là on a l'impression qu'ils n'y sont pas tout à fait quand même.
Tout à fait, tout à fait raison.
C'est...
Mais comme Jorgensen n'est pas au niveau qu'il était au mois de juin,
qu'il a une grosse chute.
Et c'est vrai que cette équipe, bon, il y a des coureurs qui manquent, hein, qui étaient
Sepp Kuss, par exemple, un maillon essentiel.
Donc, était un maillon essentiel du fonctionnement de l'équipe. Mais à un moment, rappelez-vous sur certaines étapes où Pogacar s'est retrouvé seul. Et on s'est dit, mais attends, a fait quoi l'équipe de... Où t'avais des... Tout le monde était... Rappelez-vous, il y a eu un semi-coup de bordure sur l'étape qui arrivait à 3. Oui, c'est ça. Il n'y avait que Dijon. Pogacar dans la première bordure. Dijon, oui, pardon. Il n'y avait que Pogacar, tout le monde... Et on s'est dit, attends, l'équipe, elle est à la rue.
C'était sur des étapes comme aujourd'hui qu'on les attendait. Maintenant, pour vite faire un petit point sur Van Aert et Laporte, c'est aussi, je pense, quand vous savez que votre leader est un peu juste, est-ce que vous allez aussi loin dans l'effort que s'il est maillot jaune, que s'il peut remporter le tour, sachant qu'en plus, il y a les JO derrière, etc. Je pense que mentalement, quand même, ça peut limiter.
Ce qui voudrait dire que les équipiers sentent que Vingegaard, il n'est pas sûr.
Je ne sais pas. Ou que Pogacar est au-dessus. Je ne sais pas.
C'est l'instinct des grands fauves qui sentent les choses. Les deux hommes sont donc désormais séparés de près de 2 minutes, une 57 très exactement. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une avance considérable ou classique à ce stade du Tour de France, Pierre-Yves ? Je crois que tu t'es justement
retourné sur les dernières
passé.
Années, oui, passé proche. Hein.
Notre statisticien.
L'an passé, au soir du Grand Colombier, après 14 jours de course, Tadej Pogacar possédait 9 secondes d'avance sur son dauphin Jonas Vingegaard. Le troisième, Jane Lay, était déjà à près de 3 minutes. Mais nous avions passé les Pyrénées et le Massif Central. En 2022, à l'arrivée à Mende, après 14 étapes, il ne restait que les Pyrénées à franchir et Jonas Vingegaard dominait avec 2 minutes 22 d'avance sur Pogacar. On était à peu près sur les mêmes chiffres. Lors des deux victoires précédentes de Pogacar en 2020 et 2021, au soir de la 14e étape, la situation est très différente parce qu'en 2021, Tadej n'a pas pour dauphin Vingegaard, mais un certain Guillaume Martin. Et oui, on s'en souvient peut-être pas, mais Vingegaard est à 5 minutes 32. Et en 2020, alors là c'est différent, vous vous en souvenez, nous sommes à Lyon au soir de la 14e étape, on se dirige vers une victoire de Primoz Roglic, Vingegaard n'est pas là, mais un jeune Slovène nommé Tadej Pogacar est deuxième à 44 secondes du leader, et 6 jours plus tard, au soir de la planche des belles filles, Tadej Pogacar assommera le tour avec 59 secondes d'avance sur son compatriote. Ce soir, avec 1 minute 57 d'avance, on peut dire que Tadej Pogacar a fait un break important, mais non définitif, car à la différence des années passées, il reste 5 étapes où le leader peut prendre du temps à son dauphin. Et le Slovène, je vous le signale, n'est plus qu'à un succès de son meilleur bilan annuel avec 17 victoires l'an dernier. Et comme il s'est déjà imposé 16 fois en 2022, il compte désormais 49 victoires sur les 3 dernières saisons. Et la 50e, ça sera peut-être demain.
Le Tour de France est-il joué ? La réponse dans un instant dans l'After Tour avec Jérôme, Cyril, Arnaud et Pierre-Yves. On va également s'intéresser au troisième homme, troisième fantastique, un peu moins fantastique que les deux premiers, Remco Evenepoel, qui a perdu encore du temps aujourd'hui. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct de Solary-Soulan, ce soir au terme de la 14e étape du Tour de France, remportée donc, on en a beaucoup parlé, par Tadej Pogacar qui s'impose devant Jonas Vingegaard, et le troisième fantastique, Remco Evenepoel, est donc là, à sa place, c'est-à-dire la troisième. Il perd même sa place de dauphin au classement général. Pierre-Yves, on rappelle
les classements. Classement général, Tadej Pogacar donc, est en avance d'une cinquantaine sur Vingegaard et de 2,22 sur Remco Evenepoel. Almeida, lui, est à 6,01. Donc il y a un gap vraiment, le podium est quasiment dessiné déjà.
Ouais. Evenepoel est bien le troisième homme de ce Tour de France. Troisième et...
Oui, bah sur ce qu'on voit sur les étapes, le classement, voilà, 3 minutes 40 d'avance sur le quatrième, oui, c'est le troisième homme. Après, c'est ça ce qu'on avait un peu pensé.
Est-ce qu'il peut redevenir le deuxième homme ? Voilà, c'est ça que je veux dire.
Parce que justement, si on parle d'un coup sur la tête de Vingegaard, qui se dit « je ne peux plus être premier », peut-être qu'il peut avoir une décompensation vraiment importante et qu'il y a peut-être un bon coup à jouer pour Evenepoel.
Il y a juste si le nerf de la tête lâche pour Vingegaard, à mon avis, qu'Evenepoel peut passer. Sinon, sur ce qu'on voit sur le terrain, il est quand même au-dessus de Remco Evenepoel. Ok, il y a le dernier chrono à Nice encore et c'est plutôt la spécialité de Remco, mais il y a encore des étapes de montagne d'ici là. Donc sur le papier, si la tête de Vingegaard ne pète pas en route, je pense qu'il gardera sa deuxième place et Remco, logique, troisième. On avait dit de toute façon une bataille Pogacar-Vingegaard pour les deux premières places et Roglic et Evenepoel derrière. Roglic n'est plus là, Evenepoel devient le seul troisième.
Mais surtout... il est aussi important de noter que au-delà de ça, Evenepoel, je pense qu'il n'était pas non plus venu avec l'objectif peut-être très intime de gagner.
C'est ce qu'il nous disait.
Mais voilà, le podium, il en était parfaitement satisfait. On l'a entendu tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Il était quand même plutôt enjoué, plutôt jovial quand même dans la façon dont il le disait.
Il a perdu
une place, mais c'est quand même un coureur qui est hyper régulier, quoi. Enfin, il connaît pas trop de défaillances. Bon, alors après, c'est le coureur robotique par excellence. Hein. C'est le mec qui se mettra jamais dans le rouge. Mais aujourd'hui, il est clairement pour moi la troisième force de ce tour.
Mais est-ce que vous le voyez un jour devenir la première force du tour ?
Pas avec Pogacar et Vingegaard.
Pour moi, c'est le Andy Murray du vélo. Il est tombé sur deux mecs stratosphériques comme Andy Murray, Federer, Nadal, Djokovic. Il aurait combien de grands chelems, Andy Murray, s'il n'était pas tombé sur cette génération-là ? Si Pogacar et Vingegaard continuent comme ça, sur le Tour de France, ça me paraît compliqué. Ils sont quand même au-dessus de la mêlée, les deux autres.
Ouais, Cyril ?
Je ne peux que confirmer les propos de mon avocat.
Très bien, avec ça, il est payé. Quand je pense avec tout ce qu'il est payé, c'est
300
toi qui...
balles de l'heure pour son avocat. J'ai mis la pendule. Hein.
Non, mais c'est évident que ce qu'on voit et les chiffres au travers des écarts, les comportements également. Il est limité par rapport à Pogacar et par rapport à Vingegaard.
Il ne peut pas faire un travail spécifique qui lui permette de gagner.
Il y a des choses que l'on peut faire. Mais n'oubliez pas que si vous travaillez, les autres n'arrêtent pas de travailler non plus.
Oui.
Parce que s'il n'y en a qu'un qui travaille, et si les autres ne travaillent pas, effectivement, mais ça n'existe pas. La preuve, on l'a évoqué tout à l'heure, Pogacar qui a essayé de gommer certaines imperfections, donc on continue. Dans les équipes, il n'y a pas un moment où on s'arrête de réfléchir et de voir comment on peut progresser. Alors, des fois, vous progressez dans le bon sens, et d'autres fois, pas obligatoirement dans le bon, surtout lorsqu'on part sur la technologie. Mais sur le biologique et le physiologique, vaut mieux pas se tromper, d'ailleurs. Mais là, on continue à travailler, parce qu'il y a, on va dire, des scientifiques de l'entraînement qui continuent à travailler. Mais toutes les équipes le font.
Je dis pas qu'il va jamais gagner le Tour. Attention, rappelez-vous de Vincenzo Nibali qui tombait contre Chris Froome et Contador en 2014. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui avait parié sur
Nibali. Les pavés qui ont fait
voilà. Ça peut arriver. Mais si Pogacar et Vingegaard gardent le niveau qu'ils ont maintenant sans pépins, pour moi, il est un ton en dessous.
Le problème, c'est sans pépins. Là, on a Roglic qui est parti. OK ? Roglic, il était dans le groupe 4 pour faire le podium. Bon, il se prend une première gamelle, il s'en prend une deuxième, c'est fini. Imaginons qu'à la place de Roglic, ce soit Pogacar.
Oui, mais ça bon, c'est...
Et que Vingegaard pète.
Ça c'est du cyclisme fiction. Non. Peut-être que Coquard va gagner le maillot vert si Binyam Girmay et Jasper Philipsen s'accrochent dans un sprint.
Exactement.
Écoutons Remco Evenepoel, plutôt fataliste à l'issue de cette étape. Il sait qu'il est à sa place.
Ouais, Tadej il est intouchable. Je pense que Jonas il est pas intouchable. On l'a vu aujourd'hui, mais Tadej il est hors catégorie. Du coup, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible avec Jonas, mais au moment que l'attaque de Tadej était là, j'étais un peu enfermé entre Jorgensen et Landa, donc je pouvais pas directement réagir. Peut-être si je me mets directement sur la route de Jonas, peut-être que je reste avec lui. Mais du coup, j'ai fait une belle étape, une belle dernière montée. Je pense que c'est très positif que je prends encore un peu plus de temps sur les deux derrière moi. Donc faut être content. Troisième dans l'étape, encore une fois, c'est génial pour mon premier Tour de France.
Remco Evenepoel qui dans une autre interview dit ils ont plus d'expérience et de puissance que moi.
Ce qui est vrai, les deux d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Expérience et puissance.
Il reconnaît que voilà, il est un petit peu en retard.
La puissance, je suis pas sûr qu'on puisse parler de puissance.
Il a pas moins de puissance. La preuve, il est bas contre la montre.
Ouais.
Et régulièrement.
C'est de la puissance. C'est pas un problème. En montagne.
Mais la puissance en montagne est la même. Tu fais 500 watts sur le plat ou 500 watts dans une bosse. Bah alors, il fait toujours 500 watts.
Pourquoi il n'est pas devant, alors ?
Le rapport poids-puissance.
Ah, donc il faut qu'il maigrisse.
Voilà.
Et il a déjà pas mal maigri.
Donc quand
maigri,
on disait il y a des moyens de gagner ces deux minutes, il faut qu'il maigrisse.
Ben bah oui.
Alors, messieurs, le Tour est-il joué ce soir ? C'est la sempiternelle question, dès qu'il y en a un qui gagne avec plus de 40 secondes et que l'écart est autour des deux minutes. Est-ce qu'on va s'ennuyer sur la fin du Tour ou on va encore se régaler et il peut y avoir des rebondissements ? Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, messieurs les devins, messieurs les druides ?
Nous ne sommes pas devins, malheureusement. Ce serait bien de l'être, d'ailleurs. Mais moi, je rejoins Pierre-Yves quand il dit que Cocard peut encore gagner le classement par points. Bah, il est troisième. Si les deux premiers abandonnent pour X raisons, il va gagner. Non, je pense que ces deux minutes-là, c'est un matelas qui est important. Important parce que d'abord, c'est deux minutes et que psychologiquement, c'est important. Je ne vois pas Vingegaard ce soir se dire où est-ce que je vais à la pédale reprendre deux minutes. Donc ça va cogiter à ce niveau-là. Ceci dit, rien ne dit, et c'est la vérité tout le temps, que tu ne vas pas avoir un jour une vraie défaillance qui ne sera peut-être même pas liée à l'intensité de la course. Bon, il y a quelques coureurs qui abandonnent, ce n'est pas l'intensité de la course qui les ont fait abandonner. Donc il y a plein de choses qui peuvent se produire. Donc c'est un bon matelas, il faut l'entretenir, le faire grossir éventuellement, mais ça veut dire que le Tour n'est pas fini.
On n'oublie pas l'enchaînement Giro Tour de France.
Alors on n'oublie pas ça.
Non, mais on n'oublie pas ça.
Même si bon, il a tellement vite réglé pour le coup le Giro que il a quand même fait de la patinette derrière.
Il a fait du cyclotourisme au Giro.
Ce que j'oublie pas,
très joli l'Italie.
C'est magnifique à vélo l'Italie.
Bah oui,
ce que j'oublie pas, c'est qu'on va quand même avoir une étape 19 notamment entre Embrun et Isola 2000 avec le col de Vars, avec la cime de la Bonnette et avec la montée d'Isola 2000. On a suffisamment expliqué quand même que Jonas Vingegaard, dès que la route était au-delà des 2000 mètres, était capable de prendre l'ascendant sur Tadej Pogacar pour ne pas se méfier justement de voir cette étape et imaginer qu'elle puisse éventuellement bouleverser le classement. Et puis il reste encore beaucoup d'étapes de montagne. Je pense que déjà demain, il peut se passer des choses. Déjà demain, c'est sur le papier l'étape la plus dure du Tour de France avec quasiment 5000 mètres de dénivelé positif, même si c'est réparti sur 200 km. Moi, je pense qu'il faut quand même vraiment attendre déjà demain. Si effectivement demain Tadej Pogacar reprend deux minutes à Vingegaard, oui, on pourra commencer, je pense, à faire les valises. Mais il reste
jusqu'à Nice. Oui.
Tu veux te baigner, toi, c'est ça ?
Non, Christophe nous a invités. Il nous invite à Nice. Là-bas.
Je veux faire visiter la plus jolie ville du monde, quand même.
C'est
pareil, quoi.
Donc on a envie d'aller à Nice.
Bon, ouais. Verglas d'été.
Bon, on fera pas les valises, mais sérieusement, je pense quand même que on peut pas catégoriquement.
Tout à fait.
Catégoriquement exclure que Jonas Vingegaard soit effectivement plus fort en troisième semaine que Tadej Pogacar connaisse pour une raison X ou Y.
Ça faut oublier ça.
Il a déjà connu des défaillances Pogacar pour des raisons toi-même tu l'as dit.
Je parlais de Vingegaard.
Ah oui d'accord. Non mais après on peut pas.
C'est ce que tu souhaites ou non, c'est pas ce que je souhaite.
C'est pas ce que je souhaite. C'est moi qui
dis. T'es méchant. Tu voudrais que Pogacar il perde le Tour ?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai aucune action dans la Slovénie ni dans Tadej Pogacar. Non mais simplement. Je trouve que deux minutes, c'est pas un. Voilà, au regard de ce qu'on a vu ces dernières années, Pogacar, moi je l'ai vu craquer deux fois.
C'est pas d'assurance vie.
Et prendre des très très grosses peignées. Donc je peux pas exclure que ça n'arrive pas une autre fois.
Demain, il y aura la deuxième lame.
Ouais, pour l'instant, il a un matelas une place. Demain, il peut avoir un matelas deux places.
Exactement. Alors, on va en parler dans quelques instants de cette deuxième étape dans les Pyrénées. Un mot quand même de l'échappée qui s'est vaillamment battue quasiment jusqu'au bout, puisqu'elle a été reprise dans la dernière ascension. Dans cette échappée, on avait quand même plusieurs Français. Et le dernier, c'était David Gaudu, qui s'est même bagarré pour aller chercher les points de la montagne. Mais enfin, le classement de la montagne aujourd'hui, avec les nouveaux barèmes, c'est impossible d'aller chercher.
Il s'est bagarré de manière toute relative. Et d'ailleurs, il nous l'a dit quand on a pu le voir là au bus là-haut, il nous a expliqué qu'en gros, il pensait que ça serait un grimpeur qui gagnerait le classement de la montagne, qu'il n'allait pas se battre corps et âme pour essayer d'avoir ce maillot, et que d'ailleurs, alors après on n'est pas obligé de le croire, mais que quand il a vu mettre Lascano, la pépite la cacahuète en haut du Tourmalet, il a dit bon c'est bon, je vais pas me foutre les lactiques tout de suite, et je le laisse y aller, et je cherche pas
à avoir spécialement les points. C'est quand même lui qui attaque à 800 mètres du haut pour...
Oui, non mais après voilà, manifestement, enfin c'est ce qu'il a expliqué lui.
C'est bien qu'il puisse se bagarrer quand même un petit peu. Quand il dit bah, je vais pas me bagarrer pour ça, je veux dire, qu'est-ce qui lui reste quand même dans ce tour, David?
Là, le problème, c'est les barèmes, en fait.
Oui, enfin, oui.
Là, il est objectif.
Ouais, c'est parce que finalement, c'est souvent le vainqueur du tour qui va être maillot à poids parce qu'ils prennent le plus de points aux arrivées. Donc, il voulait les faire sans les faire, apparemment. Ben voilà, on l'a dit pendant le direct. Si t'es échappé, essaye d'aller prendre les points parce qu'on sait jamais. Si t'enchaînes les échappés, ben on sait pas ce qui
se passe. Il y avait un petit plus quand même là-haut. Et je pense que Marc Madiot, qui aime bien l'histoire, c'était le souvenir Jacques Godet. Voilà. Puis c'est un plus aussi financier. Il y avait 5000 euros. C'est dans la poche de Yair Lascano. Et de son équipe.
Partagé à 140. T'es vraiment un épicier, toi. Qu'est-ce que c'est que 5000 euros, franchement? Oh là là, pour des cacahuètes.
Côté, bon, je connais certains sportifs, ils achètent des cacahuètes avec ça pour donner.
Il y en a qui feraient mieux de ne pas acheter des chips.
Tiens. Ah oui, tiens, justement. Voilà.
Il parle de mon côté breton. Il y a un garçon qui nous a fait honte, qui a fait honte à toute la Bretagne, parce qu'il avait un drapeau breton, le Gwenadu, autour du cou.
Ah ben on la voit. Elle est belle, la Bretagne. Elle est belle, la Bretagne.
Lui, il est viril.
J'ai pas fait attention, il en a un drapeau breton.
Il perd sa nationalité bretonne aujourd'hui. Une espèce de
un abruti. Tu peux pas dire autre
espèce chose. De blaireau avec une barbe et des lunettes.
Non, le blaireau, c'est un sale blaireau.
En plus, il fait deux fois. Il le fait à Pogacar et à Vingegaard derrière. Mais si t'aimes pas le vélo, viens pas te faire chier pendant toute une journée au bord de la route pour après jeter des chips ou faire je sais pas quoi sur les coureurs. Reste chez toi.
On précise que le syndicat des coureurs, le CPA, intentera une action en justice et il y aura certainement.
Il y a sa photo partout sur les réseaux, ça devrait pas être compliqué.
L'homme le plus recherché de France, l'ennemi public numéro un, c'est un peu comme Hopi et Omi il y a quelques années, vous vous en souvenez de cette dame qui avait mis une
pancarte,
la pauvre.
Mais là, ça aussi c'était en Bretagne, elle n'était pas bretonne.
Et là, c'était pas de sa faute, enfin je veux dire, c'était. C'était de sa faute. Non, mais c'était de sa faute, mais elle ne voulait pas faire du mal au peloton.
Lui, après, il voulait les nourrir peut-être.
Peut-être, oui.
Lui n'avait pas besoin de se nourrir en tout cas.
Cela dit, c'est mieux les chips que les bols de pisse dans l'Alpe d'Huez. Hein. C'est Christopher Froome qui avait expliqué qu'à l'époque il prenait des giclées de pisse dans l'Alpe d'Huez. Bon, c'était pas très sympa.
Un petit mot de. On voulait écouter David Gaudu quand même.
Ça oui.
Ah ben, écoutons David Gaudu. Alors.
Breton encore.
Hein, breton. Et lui, il jette pas les chips. Il les mange.
C'était déjà pas facile à prendre, on a laissé pas mal d'essence sur la route pour la prendre. Après, de toute façon, derrière, c'est pas nous qui décidons forcément si on va réussir ou pas à aller au bout. Donc voilà, j'ai sûrement encore la victoire d'étape. Bon, ils ont gagné, donc bravo à eux. Après, derrière, ouais, c'était la montée du Tourmalet. Je me suis dit, allez, je vais essayer d'aller chercher les points en haut. J'ai quand même fait deux il y a trois ans derrière Pierre Latour. Je me dis, on va essayer d'aller chercher les points. Quand j'ai vu la cacahuète que Lascano m'a mis, j'ai dit, c'est à rien d'aller que je me mette autant de toxines pour aller les chercher et pour faire deux dans sa roue. Donc voilà.
Voilà, encore une fois, les Groupama FDJ qui ont tenté aujourd'hui, mais une nouvelle fois, ils font chou blanc. Il reste encore quelques tentatives. Lenny Martinez est bien dans le Tour de France, rassurez-moi.
Il est bien dans le Tour de France.
L'a vu.
Oui, nous avons vu deux fois son père.
Il est masqué. Il est masqué pour information. C'est l'un des rares coureurs de l'équipe Groupama. Je ne veux pas répandre de mauvaises rumeurs, voilà. Simplement, il était masqué ce matin au départ, il était masqué ce soir à l'arrivée.
Il a essayé au début. On l'a vu se glisser dans un ou deux coups, et après, il finit très très loin. On va voir si c'est toujours sa stratégie d'attendre, mais on est bientôt à Nice quand même.
Alors arrêtez d'attendre un jour. Demain, deuxième étape des Pyrénées, encore plus dure que celle d'aujourd'hui. Arnaud nous le disait, sur le papier, c'est la plus dure, en tous les cas en termes de dénivelé positif.
4800.
4800 mètres
de dénivelé positif pour vous donner une idée sur 200 km, hein, 197 km. Et David Godu a dit un truc intéressant dans son interview. Il a dit on a laissé beaucoup d'énergie pour prendre l'échappée. Pour les grimpeurs, ça sera peut-être plus facile demain de la prendre parce que les coureurs vont partir tout de suite au pied d'un col, au pied du col de Peyresourde, 7 km à 7,8%. Quand on est un bon grimpeur comme David Godu ou Romain Bardet, pour parler que des coureurs français, c'est toujours un peu plus facile de se glisser dans cette échappée. 5 montées sur cette étape, 4 classées en première catégorie, et l'ascension finale vers le plateau de Bay classée hors catégorie. Le départ ultra compliqué, dévalé par contre cette fois entre les principales difficultés du jour, mais le plateau de Bay terrible, hein, terrible. C'est 16 km à 8% de moyenne, c'est une grande route, c'est interminable, ultra dur. Je mise sur une échappée demain. J'avais déjà dit ça aujourd'hui. On va voir, je vais finir par avoir raison pour cette dernière étape pyrénéenne.
On l'espère, on te le souhaite, évidemment. On ne peut pas gagner à tous les coups. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve demain pour le direct à 13h. Hein, le dimanche, c'est 13h. Ah oui, dès la sortie de l'église, on sera là.
Pour 11h30, alors.
Il faut se lever vers 7h30, oui, ouais, tu veux d'accord. dire. Parce qu'il y aura un peu de route quand même aussi, hein, pour aller jusqu'au plateau de Bay. Nous serons en haut des Pyrénées et nous verrons ces magnifiques vallées. Merci Arnaud, Cyril, Jérôme et Pierre-Yves. Et rendez-vous demain à 13h pour l'intégral tour.